Premier Épître à Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1. Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité, car toute créature de Dieu est bonne, et il n'y en a aucune qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. En proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. Mais rejette les fables profanes et de vieilles femmes, et exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation. Car si nous travaillons et sommes dans l'opprobre, c'est parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles. Ordonne ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement. Persévère dans ces choses, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent.
La dernière fois, nous avons étudié le dernier verset du chapitre 3. Nous avons vu que dans cet épître, il y a deux grands sujets. Il y a l'ordre dans la maison de Dieu et la piété. Le verset 16 nous montre et nous parle de cette piété. Je rappellerai simplement ce qui touche à la piété, moins les caractères qui en découlent. La piété, c'est la relation de l'âme avec Dieu dans la crainte et dans la confiance. C'est en cherchant à le connaître chaque jour dans la prière et la lecture de la parole de Dieu. Le mystère de la piété du verset 16, c'est un secret. C'est un secret réservé aux croyants le plus simple sur la terre. Ce mystère de la piété, c'est Dieu qui se révèle pleinement à ce croyant au travers de Christ. C'est tout ce que Christ est et montre de Dieu que nous recevons dans le secret de notre âme en le contemplant. Pour les croyants de l'Ancien Testament qui n'avaient pas encore la révélation entière de Christ, c'était un secret. Et aujourd'hui, ce mystère est le centre vivant que l'Assemblée maintient devant le monde, qui peut le voir, mais ne peut pas l'apprécier. Ce mystère de la piété, il est grand. Il est grand parce que cela concerne la personne de Jésus-Christ qui révèle Dieu. Il est grand car cette personne est grande, et elle occupe nos cœurs et nos méditations. Nous avons vu également les 6 expressions suivantes, qui sont les fondements de la révélation de Dieu aux hommes par celui qui a été manifesté en chair. Je ne développe pas.
Pour commencer, on pourrait donner un plan de ce chapitre 4 de la première épître à Timothée. Les 5 premiers versets sont des versets introductifs. Le sujet de ce chapitre 4, ce sont les préceptes, les conseils, les recommandations que fait l'apôtre Paul à Timothée. À Timothée comme serviteur de Dieu qui enseigne. Et bien sûr, tous ces conseils, tous ces préceptes concernent tous les frères, et en particulier ceux qui ont à cœur l'enseignement dans l'Assemblée. Le verset 6, il est dit « En proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. » Ensuite, au verset 8 en particulier, nous voyons les conseils pour la vie intérieur du serviteur de Dieu. Et nous savons que la vie intérieure de chacun de nous, la piété, eh bien, elle nous concerne bien sûr tous, mais elle est fondamentale dans la vie chrétienne et en particulier dans la vie de l'Assemblée. Un peu plus loin, pour simplifier, après la vie intérieure, l'apôtre Paul nous parle de 5 domaines de la vie extérieure. En particulier, il est parlé de la parole, de la conduite, de l'amour, de la foi et de la pureté. Et nous voyons donc que notre conduite extérieure doit être en rapport avec notre vie de piété intérieure. Le chapitre 4, donc, est commencé par cette expression, verset 1er, « L'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. » C'est-à-dire, le grand sujet du chapitre 4, c'est bien sûr ces conseils de l'apôtre à Timothée et à tout serviteur de Dieu. Et pour commencer ce chapitre, eh bien, l'apôtre Paul dit que chaque serviteur de Dieu, et en particulier Timothée, doit être enseigné par l'Esprit de Dieu. Nous savons que le Saint-Esprit est une personne divine qui habite le croyant et qui habite aussi l'Assemblée, l'Église, qui est l'habitation de Dieu par l'Esprit. Et donc le Saint-Esprit a différentes opérations, et en particulier, c'est une personne divine qui a été envoyée sur la terre à la Pentecôte, et elle est cet envoi est la conséquence de la résurrection du Seigneur. Et nous voyons ici que l'Esprit dit, donc c'est une personne divine qui parle. Dans Romains 8, il est dit qu'il intercède. Nous savons qu'il pense, c'est une personne divine qui pense, puisqu'il est parlé de la pensée de l'Esprit. Dans Romains 8 aussi, nous savons qu'il soupire, qu'il prie. Dans les Actes des Apôtres, il nous est dit aussi qu'il console. Dans les Actes des Apôtres, il nous est dit aussi qu'il choisit. Et alors, c'est un des caractères fondamentaux de la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes, c'est la présence du Saint-Esprit sur la terre, dans le croyant et dans l'Église. Et la deuxième caractéristique, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est exalté dans le ciel avec différentes fonctions. Et alors, nous voyons dans ce premier verset que l'Esprit parle, que l'Esprit s'exprime. Et un serviteur de Dieu, quant à l'enseignement, il ne doit pas se fier à ses propres raisonnements, à ses propres pensées, mais il doit se laisser diriger, avoir cette direction de l'Esprit en rapport avec le temps, les temps que nous connaissons. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, nous ne sommes pas au premier temps de l'Église, nous ne sommes pas dans un temps de réveil. Eh bien, tout ce que l'apôtre nous dit dans ce verset, c'est que quand l'Esprit parle, c'est en relation avec le temps que nous connaissons ou que nous traversons. Cela n'est pas laissé à notre propre jugement, mais c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui parle et qui donne ses indications au serviteur de Dieu qui est dépendant, au vrai serviteur de Dieu qui est dépendant, pour donner le message qui convient pour le temps et pour l'assemblée. Alors l'Esprit dit expressément. Expressément, c'est un adverbe qui nous dit que quand l'Esprit parle ici, il parle d'une manière claire et catégorique. L'Esprit dit expressément. Et donc, un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, dépendant, eh bien, l'Esprit lui parle d'une manière claire et catégorique. C'est-à-dire, le serviteur a le sentiment d'être un instrument qui va être utilisé par Dieu et par l'Esprit Saint. Alors, trouvons cette expression au dernier temps. Et nous savons que la première épître à Timothée a été écrite il y a bien longtemps. Et nous voyons dans la parole de Dieu une chronologie. Il nous est parlé des derniers temps. Dans 2 Timothée 3, verset 1er, il nous est parlé des derniers jours ou de temps fâcheux. Les temps fâcheux, eh bien, ce sont des temps périlleux. Et il faut avoir bien conscience que les derniers temps, selon 2 Timothée, ce sont des temps périlleux. Périlleux pour le témoignage chrétien, individuel et collectif. Il y a une troisième expression, fait simplement dans l'épître de Jude. Verset 18. Jude 18, à la fin du temps, il vous disait que à la fin du temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Et enfin, dans la première épître de Jean, au chapitre 2, il nous est parlé, verset 18, de la dernière heure. un serviteur donc qui a le désir d'être un vrai serviteur de Dieu, dans la main de Dieu, dépendant, eh bien, s'il est dans l'état convenable devant Dieu, eh bien, l'Esprit va lui parler expressément. Alors, l'apôtre ajoute que quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Peut-être quelques mots sur l'apostasie. Peut-être essayer de donner une définition de l'apostasie. L'apostasie, c'est le rejet des vérités fondamentales du salut dans le christianisme. C'est le rejet des vérités fondamentales de la foi et du christianisme. L'apostasie ne concerne pas, à proprement parler, les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, nés de Dieu. Eh bien, nous sommes rachetés pour l'éternité, et donc cela ne nous concerne pas. On ajoutera peut-être quelque chose après. L'apostasie. Nous savons que dans le monde, il y a des personnes qui épousent d'une certaine façon la doctrine chrétienne, d'une manière extérieure, aimer son prochain, faire du bien à son prochain, mais c'est accepter au fond le christianisme d'une manière extérieure sans être passé par la nouvelle naissance. Et donc, un temps, on peut recevoir le christianisme comme une bonne doctrine humaine qu'on accepte volontiers, et on peut en saisir quelque chose et vouloir faire du bien autour de soi dans le monde. Mais comme la vérité chrétienne n'est pas ancrée par la foi dans le cœur, il peut arriver qu'il y ait une évolution défavorable de ces personnes et qui finissent par rejeter donc le christianisme et adopter d'autres croyances. Il y a un danger pour les chrétiens, bien que à proprement parler, nous ne pouvons pas apostasier le christianisme, nous sommes de vrais chrétiens, mais nous pouvons être dans une atmosphère particulière d'apostasie dans le monde, comme nous la connaissons aujourd'hui. Et nous pouvons être, d'une manière ou d'une autre, influencés par ces caractéristiques de l'apostasie que connaît le monde en général. Et donc, nous voyons que dans ces derniers temps, l'apôtre avertit eh bien qu'il y aura des personnes qui apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. C'est-à-dire, au fond, l'apôtre nous avertit qu'il y a un monde invisible autour de nous et qu'il y a des esprits de démons, il y a des esprits séducteurs, des esprits de méchanceté qui sont à l'œuvre. Et l'apôtre met en garde Timothée contre de telles manifestations. Et il donne trois exemples particuliers sur l'apostasie à ce moment-là. C'était défendre de se marier, s'abstenir de viande. Nous savons aujourd'hui que il y a les végétariens, les végétaliens, il y a les végans. Eh bien, ce sont des personnes qui refusent de manger, donc en particulier de la viande, des viandes que Dieu a créées. Et donc, il y a une opposition contre ce que Dieu a donné, et cela vient d'esprits séducteurs et d'enseignements de démons. Et peut-être que dans nos pays ici, occidentaux et en Europe occidentale, nous ne mesurons pas peut-être l'importance de ce monde invisible avec ces esprits qui sont en travail, mais en travail pour remettre en question au fond ce que Dieu a donné au commencement. On pourra peut-être y revenir.
Il nous a été rappelé que l'Esprit qui est Dieu parle. Et l'Esprit nous a été envoyé du ciel pour nous rappeler les paroles du Seigneur, pour nous attacher à lui. Et donc, de ce fait, pour que nous ne puissions pas nous égarer, pour que nous ne puissions pas ajouter d'autres choses que ce qui est de Christ. Et l'Esprit dit expressément. Donc, c'est une parole solennelle. Le Seigneur fait tout pour que ses rachetés puissent avoir tout ce dont ils ont besoin pour marcher. Et on l'a dit, on l'a évoqué un peu, on a évoqué sur le fait que l'apostasie dont on parle ici touche ces quelques-uns qui ont comme fait profession de foi sans en avoir eu les bases et les fondements dans leur cœur. Mais la parole est se mettant pour ceux qui ont vraiment reçu le Seigneur dans leur vie que pour ceux qui font juste une profession extérieure. Et pour nous, si tous ici en ces lieux faisons partie de la première catégorie, à savoir ceux qui ont vraiment reçu le Seigneur, on peut encore se poser cette question, est-ce que nous prêtons l'attention suffisante à ce que l'Esprit dit? Ou est-ce qu'on pense que l'Esprit parle pour d'autres? Il nous souvient de Samuel dans le premier livre de Samuel au chapitre 3. Ce n'était pas seulement « parle Seigneur », mais il y avait aussi cette autre attitude qui était « ton serviteur écoute ». Et nous avons, nous, la responsabilité en tant que croyants d'écouter, mais pas pour meubler, pas pour garder comme connaissance théorique ou livresque ou pour impressionner, mais pour obéir. Parce que justement, c'est dans ce but-là que nous devons écouter. Et cela est aussi mis aussi en relation avec ce qui suit. Il nous est parlé de ceux qui apostasieront, et Michel l'a déjà dit, apostasieront de la foi. Ici, j'aimerais lier cette apostasie de la foi justement à ces trois autres attitudes qui suivent cette apostasie. La première étant s'attacher à des esprits séducteurs. La deuxième, séducteurs et à des enseignements de démons. La deuxième étant de dire des mensonges par hypocrisie. Et la troisième, d'avoir sa propre conscience cautérisée. Combien nous voyons que cela, justement, d'une certaine façon, suit une logique. Quand on s'attache à des esprits séducteurs, est-ce que là, justement, ce n'est pas un choix que l'on fait dans ces compagnies? Il nous est rappelé dans les psaumes. Pardon, dans les psaumes, à plusieurs reprises, que de ne pas se tenir dans la compagnie des moqueurs, de ne pas marcher avec ceux-là justement qui calomnient le nom du Seigneur, s'attachant à des esprits séducteurs. Et qu'est-ce que nous avons de plus en plus? Le frère Michel l'a évoqué un peu ici aussi, quand il dit que ici dans nos contrées, on n'est peut-être pas très, si on peut dire, on ne vit pas ou n'entend pas souvent ces manifestations d'esprits séducteurs, mais ailleurs, combien ils sont plus manifestes peut-être. Et ils s'attachent justement à ces esprits séducteurs parce que dans la séduction, il y a toujours ce côté où il y a un côté où il y a un aspect qui attire ce qui est de l'homme, ce qui plaît à l'homme, ce qui plaît à ses yeux, à son cœur, à sa chair, et qui justement n'est pas jugé, s'attachant à des esprits séducteurs. Il nous est dit, on peut lire dans Hébreux chapitre 13, que le cœur soit plutôt attaché, affermi par la grâce. Quand on lit au verset 9, « Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. » C'est vrai qu'ici, on fait encore allusion aux viandes, mais ce n'est pas le propos pour le moment. Quand le cœur est affermi par la grâce, le cœur, comme l'esprit, le veut, s'attache plutôt au Seigneur. Et donc ne cherche pas des choses qui le mettent à son aise ou qui répondent aux attentes de sa chair ou bien de sa vue ou de ses pensées, mais recherche plutôt ce qui est du Seigneur. Et la parole du Seigneur, comme on l'a déjà dit aussi, ou plutôt on le dira après, toute la parole est là pour nous enseigner, pour nous corriger aussi. Alors si nous ne trouvons dans la parole que des choses qui nous dorlotent ou qui nous font penser qu'on est sur le bon chemin, c'est qu'on est déjà sur un chemin de propre satisfaction. Et est-ce que là, on n'est pas déjà séduit? Et donc, ce sont des esprits, ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des choses inertes, mais ce sont des esprits. Et dans la première épître de Jean, on peut retrouver cette exhortation qui nous est donnée au chapitre 4, au verset 1er. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Et si nous éprouvons les esprits par rapport à ce que l'on peut entendre, déjà que ce ne soient pas des doctrines étrangères, des doctrines qui ont une impression de satisfaire quelque chose de notre chair ou de notre intelligence, et qui ne parlent pas de Christ, qui ne mettent pas Christ au centre, posons-nous la question, est-ce que ce ne sont pas ces esprits séducteurs qui, en commençant sur un point qui peut être bien, mais finissent toujours par nous éloigner. Et cela aussi, on le retrouve dans ces enseignements, justement, qui sont en lien avec, encore une fois, des démons que l'on peut avoir, où l'on veut enlever une partie de la vérité pour prouver peut-être que ça devient une vérité plus grande ou plus spirituelle. Mais on en sort ou on enlève le Seigneur du centre pour placer autre chose. Et rapidement, 10 ans des mensonges par hypocrisie. On a évoqué l'apostasie qui est justement ce réniement. On peut aussi parler justement de l'hypocrisie dont le Seigneur a beaucoup mis en garde ses disciples en parlant quelquefois du levain des pharisiens. Quel monde est le nôtre ces jours-ci où le mensonge est à la limite encouragé? On dit que non, c'est juste un petit mensonge. C'est un mensonge pour plaire. On a tous les revêtements possibles. Mais donc, dès qu'on commence ou on s'engage sur ce chemin des mensonges, eh bien, on s'expose aussi justement après à cette finalité qui sera qu'on renie la foi. En quelques mots, on pouvait également parler de ces éléments.
La séduction, en général, c'est quelque chose d'assez facile à voir et nous pouvons le constater dans tous les jours. C'est un mélange de vrai et de faux. Pour prendre un exemple très concret de notre quotidien, la publicité. La publicité a comme but de nous séduire, nous faire acheter un produit et on va avoir des emballages avec des belles images dessus qui présentent quelque chose et quand on ouvre la boîte, on constate que ce n'est pas tout à fait ce qui était marqué sur l'image. Qu'il y a quelque chose de vrai, mais qu'il y a beaucoup de choses non dites ou dites d'une manière, illustrées d'une manière telle qu'on s'est fait tromper par quelque chose qui nous a été suggéré et qui n'est pas là. Et ça fait directement le lien avec, justement, quand il est parlé de mensonge. Séduction, mensonge. C'est la même famille, c'est l'un va avec l'autre, toujours, d'une manière ou d'une autre. L'hypocrisie est aussi encore un autre caractère qui va dans le même sens. On veut donner l'apparence de quelque chose intentionnellement, alors que la réalité est différente. L'hypocrisie, on utilise en général beaucoup ce mot en rapport, pour prendre dans le contexte, par exemple, par rapport à la piété. Avoir l'air pieux, donner, faire les choses qui donneront l'apparence d'une piété, alors qu'en fait, cette piété est totalement absente. Et on peut lire en parallèle avec ces deux, trois versets, dans la deuxième épître à Timothée, au dernier chapitre, au verset 3, chapitre 4, verset 3, « Il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs sur leur propre convoitise, et détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et on peut le mettre aussi en perspective avec ce qu'on a vu au début de la première épître, quand la première instruction que Paul laissait à Timothée, au chapitre 1, verset 3, « Afin que tu ordonnasses à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères, ne pas s'attacher aux fables. » Qu'est-ce que c'est des fables, sinon des histoires qui ont peut-être un petit fondement vrai, mais beaucoup de choses inventées autour, aux fables et aux généalogies interminables qui produisent des disputes, etc. L'esprit dit expressément, on peut dire autrement, l'esprit averti. Et au fond, toutes ces occasions où la parole nous parle des temps à venir, c'est une manière dont Dieu nous avertit. Il ne nous laisse pas sans ressources. Il ne nous laisse pas sans savoir nous donner des indications qui nous permettront de discerner des dangers, de discerner des pièges pour ne pas y tomber, pour ne pas nous laisser entraîner. Alors, cette expression, juste à la deuxième ligne, quand il dit l'expression, l'esprit dit expressément qu'au dernier temps, On la retrouve aussi à beaucoup, on retrouve cette expression à beaucoup d'occasions, et je crois qu'il est utile de se. On va relire dans Marc ce que le Seigneur dit en rapport avec ces derniers temps d'une manière très générale. En Marc 13, à partir du verset 28, apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi, vous, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais quant à ce jour-là, ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison et donnant de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage, et il commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, je vous dis, ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. Les avertissements sont toujours en vue de veiller, de nous encourager à veiller, de nous encourager à être prêts. Et ces éléments que l'Esprit, le Seigneur lui-même, et l'Esprit par la bouche des prophètes, des apôtres, nous donnent, sont justement là pour nous donner ces indices de savoir comment, à quoi veiller. Bien sûr, veiller, c'est d'abord veiller sur nos propres cœurs. Et s'éveiller aussi alors ce qui nous entoure. Et quant à ces derniers temps, il nous faut nous rappeler toujours ce qu'on a lu dans Marc, que personne n'en a connaissance de l'heure. Nous parlons facilement en voyant des choses qui arrivent autour de nous, comme quoi tout montre que le Seigneur va venir, qu'il est très proche. Oui, peut-être, nous n'en savons rien. C'est peut-être vrai, mais nous n'en savons rien. On peut plonger un regard dans le passé, nos frères et sœurs qui habitaient en Allemagne dans les années 30, voyant le nazisme monter, pourraient se dire « tout montre que le Seigneur est proche ». Si on fait un bond bien plus loin en arrière, au 5e siècle, les Vandales envahissent Rome. Tout le monde méditerranéen était dans l'expectative « qu'est-ce qui se passe ?». Les païens disaient « c'est parce que nous avons abandonné les dieux païens et que ces chrétiens ont tout envahi ». Augustin était devant ça, devant ces phénomènes, dans la perplexité. Est-ce que le retour du Seigneur est là, va arriver? Gardons-nous de faire des pronostics, mais entendons ce que le Seigneur nous dit. Et alors, retenons bien ces choses-là. Ce qui caractérise, le point commun qui caractérise tout ce qui est ces enseignements de démons, c'est l'ennemi qui travaille. Le point commun, c'est toujours ce côté de mensonge mêlé à de la vérité. Et alors on a une gradation. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs, ils diront, et puis après, défendant. Il y a d'abord quelque chose de personnel, s'attacher à une source qui est corrompue et qui va alimenter un esprit qui est corrompu et qui se corrompt de plus en plus, énoncer des choses, parlons-en, il restera toujours quelque chose. Et puis, l'étape suivante, défendant. D'abord, c'est intérieur de ces personnes qui s'égarent, qui, en quelque sorte, mettent une barrière entre la vérité et eux-mêmes. Ensuite, on énonce des choses, c'est le serpent qui parle. Et ensuite, défendant, c'est le lion rugissant. On retrouvera toujours plus ou moins cette gradation.
Alors avant, je ne voudrais pas être très très long, mais simplement, frères et sœurs, permettez-moi juste d'avoir une pensée pour nos plus jeunes. Je pense aux ados notamment. On a une expression là qui, fin du verset 2, « ayant leur propre conscience cautérisée ». Je voudrais qu'on s'arrête sur ces deux mots, conscience et écotérisé. Alors la conscience, je crois qu'on sait à peu près toutes et tous ce que c'est. C'est un outil hein, que nous avons et qui permet de distinguer le bien du mal. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est un outil intéressant, il faut le laisser parler. Moi j'ai souvenir, quand j'étais plus jeune, ado, ça m'arrive encore maintenant, mais ado, il m'arrivait de, quand j'étais pas forcément très très clean, hein, une, deux, trois bêtises, de rentrer à la maison et mon père devait le voir sur mon visage et il me disait toujours, Emmanuel, il me disait, Manu, qu'est-ce qu'il y a ? Ta conscience te travaille ? C'est un outil qui permet de distinguer le bien du mal. Et il faut, alors c'est pas le seul outil, hein, il faut pas se fier exclusivement qu'à cet outil. La parole est un outil également pour distinguer le bien du mal, mais c'est un outil qui permet de faire cette distinction entre le bien et le mal. Cette notion, ce deuxième mot qui arrive derrière, conscience cautérisée, je voudrais qu'on revienne dessus pour vous les jeunes, pour nous également, mais pour vous les jeunes avec des exemples. Michel nous a parlé tout à l'heure d'ambiance. C'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le monde dans lequel nous vivons, vous vivez aujourd'hui, il y a une notion d'ambiance, j'y reviendrai avec des exemples si vous me le permettez. Et cette conscience, alors, bon, ce mot cautérisé, les médecins ici présents, ou les infirmiers ou les infirmières en parleraient mille fois mieux que moi, si vous me permettez, je vais me lancer, si jamais c'est pas exactement ça, n'hésitez pas à m'arrêter. Mais en gros, allez, au Moyen-Âge, si tu avais une plaie, on prenait quelque chose de très très chaud et on mettait ça sur la plaie, histoire de, on appelait ça cautériser la plaie, ça permettait quoi ? Allez, on pensait que ça allait stopper les bactéries, enfin en tout cas, qu'est-ce que ça faisait ? Toute la partie nerveuse, elle était arrêtée. Donc, c'est-à-dire qu'une sorte de douleur qui se calmait. Ça faisait mal sur le coup, mais ça stoppait. Aujourd'hui, on le fait avec des produits chimiques. Mais il en va de même pour la conscience. C'est-à-dire que la conscience, l'instrument peut être affaibli, voire même complètement éteint. Alors, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça donne concrètement ? Ben, on nous a parlé tout à l'heure, un certain nombre de frères qui sont intervenus, ont parlé de certaines vérités. Ben, il se peut que dans l'environnement dans lequel tu évolues, je ne te parle pas de l'environnement lié à ta famille, bien évidemment, ni à l'assemblée. Je te parle du temps que tu passes dans le monde, à l'école par exemple, certain nombre de vérités qui peuvent être complètement balayées ou acceptées, les deux un peu mélangées. On va prendre un exemple concret. C'est vrai qu'on parle beaucoup des vérités. Ben, alors, frères et sœurs un peu plus âgés, m'en voulez pas, je vais prendre des exemples. Ce n'est pas du tout pour choquer, mais je crois qu'il est important pour notre jeunesse d'avoir des exemples concrets. Allez, on nous a parlé tout à l'heure du salut. On peut commencer par l'existence de Dieu lui-même, c'est une vérité. Le fait qu'il a envoyé son Fils unique et bien-aimé, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, c'est une autre vérité. Le fait qu'il est ressuscité pour nous, c'est une vérité. Le salut, c'est une vérité. Tu ne crois pas au fait que le Seigneur est mort sur la croix, tu ne seras pas sauvé. À l'inverse, si tu le crois, tu seras sauvé. C'est une vérité immuable. Cette vérité peut être challengée, revue, retravaillée dans l'environnement où tu vas te retrouver parfois à l'école. Une autre vérité. On parle des vérités du rassemblement, on en a beaucoup parlé. Je peux vous en parler d'une autre si vous voulez. Le sexe. La sexualité. Quelque chose de très très bien, c'est voulu par Dieu. Par Dieu lui-même. Pensez qu'on a un corps que nous on a retravaillé pour prendre du plaisir. Bien sûr que non. C'est Dieu lui-même qui a fabriqué ce corps comme ça. La parole elle-même nous dit que les hommes, l'homme ne se prive pas de sa femme, si ce n'est pour la prière. Oui, dans le mariage. Dans le mariage. Et si tu es dans un environnement, et c'est le cas, où tu as certains de tes camarades ou certaines de tes copines qui ont déjà une sexualité bien épanouie, il ne s'agit pas là de les juger, c'est pas ça le but. C'est que cette notion d'ambiance, si tu ne reviens pas à la parole, on peut avoir cette notion de conscience qui peut s'estomper. Il faut revenir à ces enseignements. Permettez-moi un autre exemple, l'argent. La parole dit beaucoup de choses sur l'argent. On prend l'apôtre Paul, je sais être dans l'abondance comme dans la pauvreté. Ne me dis pas que tu n'as jamais vu ces vidéos sur YouTube où le petit jeune de 20 ans, bien bien baraqué sur lui, a fait son million à l'âge de 20 ans. Il est installé à Dubaï dans une belle résidence, piscine, belle voiture, belle soirée, beau restaurant. Et puis tu peux voir ça constamment, 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 et puis tu vas croire qu'in fine, bah, la vie c'est ça. Je crois qu'il faut vraiment insister sur cette notion d'ambiance. Hein. Soyons méfiants d'ailleurs nous-mêmes parents, c'est-à-dire qu'en fait, cet environnement-là nous pousse, nous, à en parler avec nos enfants et à revenir aux choses de la parole. On pourrait dire, pour éviter que ma conscience soit, non pas cauterisée, mais qu'elle soit affaiblie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la fin du passage le dit, alors on l'étudiera bien plus tard, mais permettez-moi de le lire, le verset 16, « Sois attentif toi-même à l'enseignement. » Il y a une petite note qui dit, « F aussi, reprends-les. » À l'enseignement, « Persévère dans ces choses, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'entourent. » Persévère. Ça veut dire reviens constamment à la parole, parce que si tu ne fais pas ça, l'environnement dans lequel tu es, et j'insiste lourdement, je ne parle pas de l'environnement quand on est réunis ensemble dimanche ou quand on est en famille, je parle de l'environnement dans lequel tu te retrouves quand tu es à l'extérieur, à l'école, ou même dans ton milieu professionnel pour nous. Peu, par ce mélange de séduction, de semi-vérité, semi-mensonge, faire qu'au final, eh ben, tu ne sais plus trop exactement ce qui est correct ou pas correct. La parole est claire là-dessus. Sur les exemples que je vous ai pris, la parole est très claire. Eh bien, il s'agit d'y revenir.
Juste une remarque pour prolonger ce qu'on vient de dire. L'ambiance, il y a l'ambiance qui nous entoure et il y a ce qui occupe nos pensées. L'ambiance intérieure, l'ambiance que nous nourrissons dans nos pensées, dans notre âme. Veillons à cette ambiance-là. Nous pouvons être dans l'assemblée, nous pouvons être en famille et avoir la tête occupée de ces choses qui sont de cette ambiance dont Manu parlait, du monde qui nous entoure et qui n'ont pas leur place devant Dieu, dans notre cœur, dans nos pensées. C'est quelque chose qui peut nous concerner tous à tout moment. Nos pensées dérivent, s'envolent et se laissent séduire. Et là, il n'y a qu'une solution, c'est au secours Seigneur. Toi seul, tu peux me chasser ces pensées, à m'amener à juger ces pensées, ces choses qui occupent mon esprit et me détournent de toi.
Ce qui vient d'être dit est très important parce que il est parlé d'esprit séducteur. Des esprits de méchanceté, des esprits démoniaques. C'est-à-dire, au fond, ces esprits, ils agissent sur les pensées et les esprits des hommes. Et une des conséquences de l'action de ces esprits séducteurs sur l'esprit des hommes, sur les pensées, justement, c'est d'entraîner cette conscience cautérisée. Et donc, c'est important de mettre nos enfants à l'abri, bien sûr, dans la mesure du possible, d'une telle atmosphère dans le monde. Mais bien sûr, ils sont exposés par les études, par beaucoup de choses, à de telles choses. Et moi, je trouve assez remarquable, c'est que l'apôtre Paul, il donne trois exemples de la vie pratique. Il parle de défendre, de se marier. Il dit aussi s'abstenir de viande. Et au fond, il s'agit de doctrines qui sont fausses. Et à mon avis, le point important, c'est que l'apôtre Paul, il ne s'étend pas sur ces choses, sur ces fausses doctrines. Il les cite simplement. Et c'est toujours un grand danger pour les croyants, c'est d'essayer de comprendre les erreurs doctrinales. S'apesantir sur ces erreurs, chercher pourquoi elles sont survenues dans telle ou telle situation, dans tel ou tel siècle, et donc, nous voyons que l'apôtre Paul, il est très prudent, il ne fait pratiquement que les citer rapidement. Et il y a sans doute un enseignement à retenir, c'est que nous devons être occupés de la vérité. C'est garder la vérité, être occupé de la vérité. bien que les esprits séducteurs sont à l'œuvre, eh bien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, eh bien, il doit être non pas occupé des erreurs, mais au contraire d'être occupé de la vérité, de garder la vérité, recevoir la vérité. Et c'est de connaître la vérité, la recevoir, la garder, eh bien, c'est cela qui va nous préserver des erreurs. Juste dans Lévitique 13, verset 29, et si un homme ou une femme a une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur verra la plaie, voici, elle paraît plus enfoncée que la peau, ayant en elle du poil jaunâtre et fin, alors le sacrificateur le déclarera impur, c'est la teigne, c'est une lèpre de la tête ou de la barbe. C'est-à-dire, en étant occupé de l'erreur, en étant occupé des fausses doctrines, eh bien, nous pouvons finir par les adopter. Et nous voyons dans Lévitique 13 que la lèpre, ce mal, le péché, eh bien, il peut arriver dans la tête. Et l'enseignement de Paul dans le Nouveau Testament, c'est le grand danger à nous occuper de choses qui ont cours dans le monde, ou même dans le monde chrétien, beaucoup de fausses doctrines. Et nous voyons que ici, cette plaie, elle s'enfonce, je crois, voilà, verset 30, et voici, elle paraît plus enfoncée que la peau. La deuxième conséquence, elle est d'abord dans la tête, et après, la plaie, elle vient dans la barbe. C'est-à-dire, elle finit par s'énoncer à l'extérieur. Et l'enseignement de Lévitique 13 est sans doute très intéressant quant à la lèpre et au sacrificateur. Et tout cela pour dire que prenons garde à être occupés de la vérité, à garder la vérité, ta parole est la vérité. Occupons-nous de tout ce que nous donne la parole de Dieu. Faisons attention, il y a des esprits séducteurs autour de nous et qui ont sans doute convaincu des hommes qui adoptent ces fausses doctrines. Eh bien, soyons gardés d'essayer de nous apesantir, de comprendre comment sont venues ces fausses doctrines. Soyons occupés de la vérité. Encore un mot sur 1 Jean 4 que nous avons cité tout à l'heure. L'enseignement de la première épître de Jean, chapitre 4, dans les premiers versets jusqu'au verset 6, il nous est parlé de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de vérité qui habite le croyant, et il nous est parlé également que dans le monde, il y a l'esprit de l'Antichrist, et qui est appelé l'esprit d'erreur. Et donc, il est de la plus haute importance pour chaque croyant, c'est d'écouter l'Esprit de Dieu, d'écouter l'Esprit de vérité. C'est-à-dire, quand nous lisons la parole de Dieu, nous laisser guider par cet esprit. Et ici, 1 Jean 4, il peut nous arriver donc et d'être tenu à tester des choses que nous entendons, sans nous apesantir, bien sûr. Et donc, la parole de Dieu nous dit que nous avons à éprouver les esprits pour voir leur origine, pour savoir c'est de Dieu ou si c'est pas de Dieu. Et ce qui est important, c'est de savoir que le diable cherche toujours à détruire la vérité de Dieu. Et il le fait de plusieurs manières. Il le fait par la force, il le fait par la contrefaçon, et il le fait en mélangeant l'erreur et la vérité. Et donc, le grand test, quand nous sommes amenés à éprouver ces esprits, à comprendre, le grand test, bien sûr, c'est la parole de Dieu révélée. Éprouver les esprits, c'est l'enseignement de 1 Jean 4. Il est parlé aussi du discernement des esprits dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, sauf erreur. Et donc, le discernement des esprits dans 1 Corinthiens 12, c'est plutôt un don que nous recevons de la part du Saint-Esprit. Et il s'agit donc d'un don qui est conféré à tel croyant en particulier.
On a parlé de l'esprit de l'Antichrist. C'est intéressant de voir qu'en Apocalypse 13, au verset 11, il nous est parlé de l'Antichrist. « Je vis une autre bête montant de la terre. » Et verset 14, « Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles. » Elle séduit par des miracles. Les miracles, ça plaît aux hommes, c'est ce qui est spectaculaire. Arnaud a dit tout à l'heure que les esprits séducteurs, c'est ce qui plaît aux hommes. L'Antichrist agira de cette manière-là. Et l'apôtre Paul, au contraire, on le voit en 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Car notre exhortation n'a pas eu pour principe ni séduction, ni impureté, et nous n'y avons pas usé de ruse. Mais comme nous avons été approuvés de Dieu pour que l'Évangile nous fût confié, nous parlons ainsi, non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. L'apôtre Paul, il n'usait pas de ce principe de séduction, et il ne cherchait pas à plaire aux hommes. Alors, quand on a parlé de la vérité, quand on dit la vérité de la part de Dieu, ça plaît rarement, si ce n'est jamais, aux hommes. Il faut s'y attendre. Mais l'apôtre Paul, il se tenait devant Dieu. Et un dernier verset par rapport à cela, en 2 Corinthiens, au chapitre 2, et au verset 17, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Car nous ne sommes pas comme plusieurs qui frelatent la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ. La séduction, elle frelate aussi la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul y parlait sincèrement. Il se tenait devant Dieu. Alors, le Seigneur vient bientôt, il l'a promis. Qu'il puisse être dit de chacun d'entre nous quand il viendra, bien, bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en ce qui était peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Peut-être juste quelques mots sur le verset lié à la viande, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette question-là. Déjà, la première remarque, c'est qu'il n'est pas juste fait question de s'abstenir des viandes, mais il y a une suite au verset. De s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce, par des fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Car toute créature de Dieu est bonne, et il n'y en a aucune qui soit rejetée, étant prise avec action de grâce. La question va quand même relativement loin. Le sujet de la viande est souvent repris dans la parole à divers passages. Ça porte plusieurs images, et il y en a une peut-être que je voudrais mettre en avant, c'est que la viande, pour avoir de la viande, il faut un animal, il faut tuer un animal. Et pour tuer un animal, il faut faire couler le sang. Ça, ça nous projette très loin dans la parole. Hein. Ça nous amène déjà à Genèse avec Caïn et Abel. Ça nous parle de toute cette histoire-là et ça nous amène jusqu'au Seigneur Jésus-Christ à la croix, cet agneau de Dieu. Donc c'est un sujet qui est quand même, me semble, assez central, qui est repris plusieurs fois. Peut-être que je relirai d'autres passages. Il y a parlé des viandes qui sont pures ou impures. On pourrait penser à ce passage dans les Actes. Aussi une autre vérité, peut-être aussi sur lesquelles nos enfants sont peut-être confrontés, mais sur ce qui est pur et impur. Je lirai donc dans Actes 10, juste quelques versets. C'est Pierre qui a faim, qui a une vision. Et le Seigneur lui dit de prendre et de manger. Et lui, il se retient. Donc Actes 13 au milieu. « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais 10, verset 13, merci. « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, point, Seigneur, car jamais je n'ai pris manger qui soit impur ou immonde. » Et une voix lui fut adressée encore pour la seconde fois, disant « Ce que Dieu a purifié, toi ne le tiens pas pour impur. » Il y a ce que Dieu a donné. On pourrait penser aussi à des passages dans 1 Corinthiens aussi par rapport à ce qui est donné aux idoles, de la liberté qu'on peut avoir ou pas à manger. Je ne lirai peut-être pas le passage, je vais juste le citer pour que les plus jeunes puissent le trouver. Au chapitre 8, peut-être aussi aujourd'hui on entend beaucoup parler de cette nourriture, du halal, du kasher. Voilà, il y a ce que Dieu a donné, il y a ce qui est sacrifié aux idoles. Ce que nous, on a y gagné, c'est-à-dire rien. Ce qu'on a y perdre, pas grand-chose. On a à être vigilant à la façon dont on fait les choses et de rendre toujours à Dieu ce qui est donné, voilà, rendre avec des actions de grâce et rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Et c'est important de garder ça, de cette prière quotidienne pour tous les bienfaits que Dieu nous donne.
C'est remarquable, justement, que les deux éléments qui sont relevés là, comme interdisant, défendant d'eux, c'est le mariage, Genèse 2. Et ce sont ces viandes, Noé, après le déluge, Genèse 9. Si on reprend juste les passages concernés, Genèse 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Le mariage, comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a donné, comme Dieu l'a ordonné. Et au chapitre 9, donc après le déluge, quand Noé est sur la terre et qu'il reçoit ses instructions de Dieu, au début du chapitre 9, et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre. Verset 3, « Tout ce qui se meut et qui est vivant vous sera pour nourriture, comme l'herbe verte, je vous donne tout. » Et puis cette instruction, verset 4, en rapport avec ce que Nat vient de relever, « Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. » On a en perspective l'animal sacrifié dans le contexte de la loi à la place de celui qui est coupable, image du Seigneur versant son sang, donnant sa vie à notre place. Cette nourriture que Dieu a donnée, On le retrouve comme nous tournons nos regards vers Christ. Et ce sont des choses là qui sont relevées, qui sont parmi ces choses données dès le commencement, avant même la loi. Bien sûr, le défendant de se marier, on peut penser à tous ces courants qu'il y a eu, en pensant que dans le célibat, on pourrait contrôler les pulsions de la chair. Grande illusion. Et qu'on pourrait vivre en bonne entente avec toute la règne animale sans devoir tuer des animaux. On regarde ce règne animal, l'homme est une proie au milieu de prédateurs et d'autres proies. Voilà. Des choses qui sont présentées, non plus comme des nouvelles vérités mensongères, mais défendant d'eux. défendant le mariage, défendant de manger cette viande. Une autorité qui veut imposer quelque chose. Alors que, il y a ce petit mot qui m'a frappé dans la lecture, verset 3, deuxième ligne, les viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce. Voilà le plan de Dieu. Il les a créées pour être prises avec action de grâce. Un don pour lequel nous remercions.
Juste une remarque. S'abstenir des viandes que Dieu a créées, on pourrait penser qu'il s'agit de simples conseils diététiques et qu'il ne faut pas manger de viande, il vaut mieux manger du poisson, il faut mieux manger des végétaux. Et ce qui est important, c'est ce que fait l'apôtre Paul. Il lève le voile et il montre que ce sont des enseignements de démons et des esprits séducteurs qui sont à l'œuvre. Et justement, comme on vient de le dire, qui sont à l'œuvre pour remettre en question ce que Dieu a donné au début, dans la Genèse. Et donc on voit dans un temps d'apostasie qu'il y a des esprits démoniaques, des esprits séducteurs qui sont à l'œuvre pour remettre en question ce que Dieu a donné, que ce soit le mariage, que ce soit les viandes à prendre avec action de grâce.
Peut-être encore juste une remarque. Ce que nous avons là est un parfait exemple de l'enseignement des trois premiers chapitres qui ont été perdus. Au chapitre premier, nous avons, si nous nous souvenons, nous avons la description de l'âme qui se rend compte de la grâce dont elle fait l'objet. Et ici, nous avons... ce sentiment qui est perdu, le sentiment de la grâce et de la primauté de Dieu. Dans le deuxième chapitre, il y a le sentiment, ce qui est perdu, c'est l'ordre dans la création, l'ordre dans les choses que Dieu a établies. Et ici encore, nous avons cet ordre qui est remis en question. Dans le troisième chapitre, il y a l'ordre dans la maison de Dieu et il y a aussi la piété. Et cette crainte de Dieu, ici aussi, elle est perdue. Mais ce qui est remarquable, c'est que l'apôtre restaure tout ça avec un seul exemple. Étant prise avec action de grâce, action de grâce. Nous sommes objets de la grâce, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Nous reconnaissons, quand nous prenons ces viandes avec action de grâce, nous reconnaissons l'ordre que Dieu a créé et nous nous y soumettons. Et troisièmement, nous pouvons prendre ces viandes dans la crainte et dans cela nourrit même notre relation intime avec Dieu. Et dans le sentiment de cette grâce, nous sommes même édifiés par ces choses terrestres. En proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus.